une parole, un grand frisson traversa les terres plates, ensemencées de blé et d'avoine, où le Paradou avait roulé sa houle de prodigieuses verdures. Maintenant, par la plaine desséchée et nue, Pascal et Clotilde marchaient dans la poussière craquante des routes. Ils aimaient cette nature ardente, ces champs plantés d'amandiers grêles et d'oliviers nains, ces horizons de coteaux pelés où blanchissaient les taches pâles des bastides, qu'accentuaient les barres noires des cyprès centenaires. C'était comme des paysages anciens, de ces paysages classiques tels qu'on en voit dans les tableaux des vieilles écoles, aux colorations dures, aux lignes balancées et majestueuses. Tous les grands soleils amassés, qui semblaient avoir cuit cette campagne, leur coulaient dans les veines. Et ils en étaient plus vivants et plus beaux, sous le ciel toujours bleu, d'où tombait la claire flamme d'une perpétuelle passion. Elle, abritée un peu par son ombrelle, s'épanouissait, heureuse de ce bain de lumière, ainsi qu'une plante de plein midi. Tandis que lui, refleurissant, sentait la sève brûlante du sol lui remonter dans les membres en un flot de virile joie. Cette promenade à la Séguirane était une idée du docteur, qui avait appris, par la tante Dieudonné, le prochain mariage de Sophie avec un garçon meunier des environs. Et il voulait voir si l'on se portait bien, si l'on était heureux dans ce coin-là. Tout de suite, une délicieuse fraîcheur les reposa lorsqu'ils entrèrent sous la haute avenue de Chêne-Vert. Aux deux bords, les sources, les mers de ces grands ombrages, coulaient sans fin. Puis, lorsqu'ils arrivèrent à la maison des Mégers, ils tombèrent justement sur les amoureux, Sophie et son meunier, qui s'embrassaient à pleine bouche près du puits. Car la tante venait de partir pour le lavoir, là-bas, derrière les saules de la Viorne. Très confus, le couple restait rougissant. Mais le docteur et sa compagne riaient d'un bon rire, et les amoureux rassurés contèrent que leur mariage était pour la Saint-Jean, que c'était bien loin, que ça finirait par arriver tout de même. Certainement, Sophie avait encore grandi en santé et en beauté, sauvée du mal héréditaire, poussée solidement comme un de ces arbres, les pieds dans l'herbe humide des sources, la tête nue au grand soleil. Ah, ce ciel ardent et immense, quelle vie il soufflait aux êtres et aux choses! Elle ne gardait qu'une douleur. Des larmes parurent au bord de ses paupières lorsqu'elle parla de son frère Valentin, qui ne passerait peut-être pas la semaine. Elle avait eu des nouvelles la veille, il était perdu. Et le docteur dut mentir un peu pour la consoler, car lui-même attendait l'inévitable dénouement d'une heure à l'autre. Quand ils quittèrent la Séguirane, Clotilde et lui, ils revinrent à Plassans d'un pas qui se ralentissait, attendris par ce bonheur des amours bien portantes et que traversait le petit frisson de la mort. Dans le vieux quartier, une femme que Pascal soignait lui annonça que Valentin venait de mourir. Deux voisines avaient dû emmener Guiraude, qui se cramponnait au corps de son fils, hurlante, à demi folle. Il entra à la porte. Enfin, ils reprirent le chemin de la Souleyade, silencieux. Depuis qu'il avait recommencé ses visites, il ne paraissait les faire que par devoir professionnel, n'exaltant plus les miracles de sa médication. Cette mort de Valentin, d'ailleurs, il s'étonnait qu'elle eût tant tardé. Il avait la conviction d'avoir prolongé d'un an la vie du malade. Malgré les résultats extraordinaires qu'il obtenait, il savait bien que la mort resterait inévitable, la souveraine. Pourtant, l'échec où il l'avait tenu pendant des mois aurait dû le flatter. Penser le regret, toujours saignant en lui, d'avoir tué involontairement la fouasse quelques mois plus tôt. Et il semblait n'en rien être, Un pli grave creusait son front lorsqu'ils rentrèrent dans leur solitude. Mais là, une nouvelle émotion l'attendait. Il reconnut dehors, sous les platanes où Martine l'avait fait asseoir, Sarteur, l'ouvrier chapelier, le pensionnaire des Tulettes, qu'il était allé piquer si longtemps. Et l'expérience passionnante paraissait avoir réussi. Les piqûres de substances nerveuses donnaient de la volonté, puisque le fou était là, sorti le matin même de l'asile, jurant qu'il n'avait plus de crise, qu'il était tout à fait guéri de cette brusque rage homicide, qu'il aurait fait se jeter sur un passant pour l'étrangler. Le docteur le regardait. Petit, très brun, le front fuyant, la face en bec d'oiseau, avec une joue sensiblement plus grosse que l'autre, d'une raison et d'une douceur parfaites, débordant d'une gratitude qui lui faisait baiser les mains de son sauveur. Il finissait par être ému. Il le renvoya affectueusement en lui conseillant de reprendre sa vie de travail, ce qui était la meilleure hygiène physique et morale. Ensuite, il se calma. Il se mit à table en parlant gaiement d'autre chose. Clotilde le regardait, étonnée, un peu révoltée même. « Quoi donc, maître? Tu n'es pas plus content de toi ?» Il plaisanta. « Oh, de moi, je ne le suis jamais. Et de la médecine, tu sais, c'est selon les jours. » Ce fut cette nuit-là, au lit, qu'ils eurent leur première querelle. Ils avaient soufflé la bougie, ils étaient dans la profonde obscurité de la chambre, aux bras l'un de l'autre, elle si mince, si fine, serrée contre lui, qui la tenait toute d'une étreinte, la tête sur son cœur. Et elle se fâchait de ce qu'il n'avait plus d'orgueil, elle reprenait ses griefs de la journée, en lui reprochant de ne pas triompher avec la guérison de Sarteur, et même avec l'agonie si prolongée de Valentin. C'était elle, maintenant, qui avait la passion de sa gloire. Elle rappelait ses cures. Ne s'était-il pas guéri lui-même? Pouvait-il nier l'efficacité de sa méthode? Tout un frisson la prenait à évoquer le vaste rêve qu'il faisait autrefois. Combattre la débilité, la cause unique du mal, guérir l'humanité souffrante, la rendre saine et supérieure, hâter le bonheur, la cité future de perfection.